Stéréautisme, le podcast qui donne la parole aux étudiants sur le spectre. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté de discuter avec moi aujourd'hui. On essaye de mettre en place un rituel, une petite routine, on va dire, dans le podcast, et de commencer toujours par une question un peu bizarre.
Je voulais commencer par une question. Est-ce que tu serais plutôt vêtements amples ou vêtements près du corps ?
Ben, ample, c'est plus confortable.
Et t'as toujours été...
Comme ça ?
Ouais, tu portes toujours ce genre de vêtements ou...
Ben là, oui. Ensuite, j'ai toujours préféré ça. Il y a des périodes où j'ai tenté d'autres choses parce que principalement, c'était plus à la mode au collège, mais ça a pas marché. Mais ensuite, je me suis rendu compte que c'était ok de pas faire ça, donc ça va.
Et ça marchait pas, c'est-à-dire envers toi ou...
Non, mais c'était pas agréable pour moi. Ça changeait pas grand-chose à mes relations sociales non plus. Je pense que ça avait très peu d'intérêt, en fait. Mais bon, ensuite, j'imagine, le collège, tu te cherches un peu tout ça.
Donc t'as préféré ton confort, entre guillemets.
Oui, ben là, oui, mais c'est très bien comme ça.
Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, si ça te dérange pas ?
Oui, ben je suis en... J'ai quel âge ? J'ai 22 ans, je suis en agrég d'histoire, et j'ai envie de faire de l'enseignement et de la recherche,
okay.
Voilà.
Super. Moi, j'aimerais savoir pourquoi t'as accepté de participer à cette présentation ?
Ben c'est un peu intimidant, ensuite j'en ai jamais... Enfin, j'ai pas trop parlé de ça depuis le début, d'une part parce que j'ai été confrontée au diagnostic il y a pas si longtemps que ça,
okay.
Et ensuite parce que je me suis dit que comme c'était pas, comme le moment venu, je savais pas trop quoi faire de l'info, je me suis dit que si maintenant qu'il y a eu un peu plus de délai, d'une part peut-être que ça peut m'aider moi à savoir quoi faire de l'info, et ensuite, ça peut peut-être aider d'autres gens qui ont les mêmes questions. Donc, comme j'ai pas trop d'obstacles à ce genre de truc, je me suis dit que je pouvais participer.
Ok. Bon, en tout cas, moi, ça me fait très plaisir de pouvoir t'interviewer, si on peut le dire comme ça. J'aimerais savoir comment tu t'es rendu compte que tu n'étais pas neurotypique, enfin, que tu n'étais pas dans la norme.
Je sais pas, j'avais pas trop d'amis déjà, mais ça c'était pas tellement un... enfin je me suis pas tellement posé la question en fait, enfin c'était pas très heureux en termes de, enfin dans... purement dans le sens avec du succès ou non, voilà c'était pas de très bons résultats. Ensuite ça m'a pas posé particulièrement de problèmes. Et ensuite, ça a surtout été la catastrophe pendant ma L3, en fait. Enfin, je me posais la question depuis un moment, notamment surtout parce que de base, j'avais vraiment beaucoup de mal à me concentrer.
Okay.
Un peu à comprendre des sous-entendus, des fois, mais c'est pas tellement un obstacle. C'était plus trop un obstacle parce que plus j'ai grandi, plus j'ai accepté de demander aux gens directement quand je comprenais pas. Et en fait, comme en avançant, mon entourage était, je pense... Enfin, moi, j'ai mis ça en lien avec le fait que les études, elles se spécialisent de plus en plus. Comme au fur et à mesure, j'étais de plus en plus avec des gens qui avaient un peu le même genre de profil que moi ou de centre d'intérêt, j'avais pas trop peur que ça se passe mal. Du coup, j'ai pris l'habitude de demander quand je comprenais pas, et ça, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est surtout, c'est surtout que j'avais du mal à me concentrer. J'avais pas le budget pour aller voir un psychiatre. Ensuite, j'ai intégrer l'ENS, donc j'avais le budget, et ensuite c'était un peu la catastrophe pendant ma L3, parce que j'ai eu un rythme de vie vachement plus instable, parce qu'il y avait moins de cours, ça prenait moins de place, et je savais pas trop quoi faire dans ma vie, et quel équilibre retrouver entre les relations sociales, les cours et tout, et comme c'était très instable partout, ça a juste tout aggravé, et j'étais plus sensible à tous les autres trucs qui normalement étaient un peu mineurs. J'avais plus de sensibilité au bruit, j'arrivais pas du tout à me concentrer sur rien du tout, et je suis allée au partiel du deuxième semestre sans avoir eu le temps de lire mes cours en entier une seule fois, ce qui était quand même pire que d'habitude, parce que d'habitude, vu que j'ai quand même plutôt réussi scolairement, c'est surtout que ça marchait dans tous les cas. Ensuite, là, les partiels de L3, c'était vraiment une catastrophe, donc entre-temps, j'ai vu la psychiatre, et voilà. Ensuite, moi, je venais la voir pour des troubles de la concentration, elle les a confirmés, elle a rajouté un TSA, j'ai dit « Ah, d'accord », et voilà.
Petit point, rappelons-le, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les acronymes, TSA veut dire « trouble du spectre de l'autisme ».
Je voulais voulais savoir comment tu avais entendu parler pour la première fois d'autisme ou de neuroatypie, mais en fait, c'est à ce moment-là, avec ce rendez-vous.
Non, j'en avais entendu parler avant, mais parce que j'étais pas très surprise quand elle m'a dit ça, je me suis dit « Ah, tiens donc !» Ensuite, elle m'a dit « Vous avez pas l'air très surprise », et je lui ai dit « Ben, j'ai vu votre page Doctolib, du coup, c'est marqué dans vos spécialités. » Mais en fait, non, j'avais vu un documentaire avec mes parents quand j'avais 10 ans, je crois, un où il y avait plein de stars entre guillemets du genre Joseph Chovanec, des trucs comme ça. Ouais. Enfin, en gros, c'était un documentaire ça s'appelait Dans le cerveau du goût, voilà.
Ah oui.
Okay. Oui, c'est vrai, j'avais vu ça. C'était très intéressant, voilà. Ensuite, j'ai eu aussi un livre sur ça en quatrième en littérature anglaise qui s'appelait Curious Incident of the Dog in the Nighttime. Enfin. En gros, j'ai pu, c'est le curieux incident du chien dans la nuit en français, okay. Je crois. Voilà, qui parle de un type qui s'appelle Christopher et qui un TSA qui qualifie comme Asperger et que en gros il mène l'enquête sur le meurtre du chien de sa voisine. Voilà, mais c'est tout son point de vue, tout ça. Donc ça c'était très bien. Et ensuite parce que c'était un peu moins, c'est un peu dur parce que comme entre temps il y a eu plus de développement de l'idée du spectre, etc. Mmh. Ça a fait plus de modulabilité dans les
classifications.
Ouais, et puis aussi dans les manifestations que ça peut avoir. Parce que du coup, le cerveau du goût, j'ai trouvé ça très intéressant. Et ça me rappelait des trucs, mais ça me rappelait pas des trucs totalement non plus, puisque j'avais quand même moins de difficultés de manière générale en termes sociaux. J'ai pas eu de retard pour parler particulier. J'ai principalement eu des problèmes de relations sociales et un petit peu avec du bruit ou des textures, mais c'est... Enfin, j'ai pas non plus... en gros, mon parcours scolaire a jamais été très catastrophique, et en plus, ça s'est bien passé jusqu'à présent, et ça se passe toujours bien, du coup, j'avoue que... Enfin, c'est en allant un peu croissant dans la variété des représentations que je me suis dit que peut-être que c'était pas si surprenant que ça... Quand j'ai vu, au moment où j'ai vu la pièce, j'étais pas si surprise que ça, parce que j'avais bien vu que ça avait évolué, etc. Mais disons que j'y allais pas particulièrement pour ça. C'était un peu un effet annexe auquel je m'attendais. Mais c'était pas mon principal motif de consultation, puisque je me suis dit, de toute façon, il n'y a pas de traitement, elle va pas pouvoir faire grand chose, à part juste donner des facteurs explicatifs à des trucs qui se sont passés jusqu'à présent. Ce qui était toujours appréciable. Mais j'y allais principalement parce que j'avais vraiment beaucoup de mal à me concentrer et que là, par contre, il y a des traitements et que c'était une catastrophe, quoi.
Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de traitement vu que l'autisme, c'est pas une maladie et que du coup, on n'en guérit pas. Mais du coup, est-ce que tu peux préciser un petit peu si du coup tu as été diagnostiquée ou...
Oui, alors en fait, au début, j'ai pas eu un suivi normal parce que il n'y a pas beaucoup de. C'est un peu surchargé les psychiatres et, et en fait, elle avait fait une erreur de manip sur Doctolib, je pense, parce qu'elle avait laissé. J'ai mis consultation pour la première fois, elle avait laissé un rendez-vous en visio dans 3 mois, ce qui est trop bizarre comme truc.
Ouais.
Du coup, je l'ai pris, en me doutant que c'était une erreur. Ensuite, on l'a fait, elle m'a dit, effectivement, c'était une erreur. On a fait une consultation en visio, elle m'a dit, la prochaine fois, venez en vrai, puis je vous mets dans le suivi. Ensuite, on s'est vu en vrai. Elle m'a dit qu'elle avait des hypothèses liées au TSA. Et ensuite, elle m'a dit, au bout d'un moment, que c'était quand même un peu plus évident quand on s'était vu en vrai. Du coup, en gros, j'ai aussi un papier qui dit oui, je confirme le truc. À un moment, en gros, elle avait évoqué au tout début la possibilité de faire un bilan neuropsy pour évaluer les différents trucs.
Encore une fois, un petit point s'impose. La réalisation d'un bilan neuropsychologique permet de ramener à des normes selon l'âge du patient. Par exemple, pour les enfants comme pour les adultes, il peut s'agir de batteries de tests que l'on appelait avant l'évaluation du quotient intellectuel, permettant d'avoir des données cognitives globales par rapport à une norme.
Et en fait, à un moment, je lui en ai reparlé à peu près quelques mois plus tard, et elle m'a dit qu'en fait, elle n'avait pas pour projet de le faire là, parce que ça coûte super cher, et que, en gros, quand c'était relativement évident, avec juste le diagnostic purement clinique, quand on s'est vu pas mal de fois, du coup, elle préconisait pas particulièrement de le faire, à part pour la curiosité, quoi. Mais comme je peux vivre sans connaître mon QI, je pense que ça va. Du coup, j'ai pas prévu de le faire non plus là tout de suite.
Ok, donc ouais, ça reposait, initialement, ça repose quand même vachement sur le hasard du. l'erreur de manip de Doctolib pour pouvoir avoir un rendez-vous.
Bah, j'ai surtout eu de la chance d'avoir un suivi, ouais. Enfin, c'est, je me doutais que ça pouvait être, une issue et ça m'intéressait de savoir aussi. Mais, je pense que vraiment, enfin, ça venait surtout de l'urgence de tout s'était aggravé, quoi.
Ouais.
Mais ensuite, j'ai fait une sorte de dépression, donc ensuite, quand j'ai arrêté la dépression, enfin, c'est pas fait du jour au lendemain, mais, enfin, là, c'est plus du tout le cas, et, c'est pareil, ça s'est re-atténué. Genre, en gros, j'ai surtout l'impression que quand j'étais déprimée, ça a exacerbé tous les trucs qui allaient pas, et toutes les sensibilités, et tous les trucs un peu bizarres que, enfin, bizarres, entre guillemets, que j'avais, mis un peu de côté ou que j'arrive à accepter avec aucun problème. Et en fait, ça devenait plus un problème et ça faisait des années que c'était pas un problème. Donc ça a un peu ça a un peu déclenché le truc aussi. Mais encore une fois, il y a pas tellement de traitement. Je dirais que ça aide principalement. Enfin, ce genre de suivi, ça aide principalement à mieux comprendre comment fonctionne le cerveau. Ce qui était mon objectif principal aussi. Enfin, le motif. Court terme, c'était que j'arrivais pas du tout à me concentrer. Le motif long terme, c'est aussi que je comprenais pas tellement comment gérer mes propres émotions et que j'en avais eu plus en L3 en plus. Et aussi que j'avais un peu envie, au bout d'un moment, comme c'était tout était devenu déréglé et inhabituel, j'avais un peu envie de comprendre comment fonctionnait mon propre cerveau pour le re-régler, ou du moins pour s'en accommoder, quoi. Parce que visiblement, j'y arrivais plus.
Ok. Donc c'est vrai que par rapport à ce que tu disais dans ta scolarité, c'est qu'en gros, il a fallu qu'il y ait un peu des signaux plus d'alerte du moment où ça allait plus pour que tu cherches à en savoir plus un peu sur...
Oui, parce qu'en fait, avant, ça relevait de la curiosité.
Ok.
Et ça relève toujours de la curiosité. Enfin, je dirais que la curiosité, ça intervient surtout dans la mesure où il n'y a pas de traitement. Et ça ne change pas particulièrement ma vie de le savoir, parce que ma vie n'était pas ultra déréglée. Ensuite, du coup, les signaux d'alerte, ça m'a poussé surtout à prendre un rendez-vous, notamment parce que pour la concentration, il y a des traitements, mais pas que. Il y en a aussi pour la dépression, etc. Mais surtout, c'est ce qui a un peu motivé le truc, parce que aussi, l'idée d'avoir un diagnostic, moi, je pense que c'est important, pour la légitimation d'une part, et d'autre part parce que je trouve que c'est très difficile de se juger soi-même, mais c'est aussi parce que j'avais même du mal à accepter les diagnostics de la psychiatre, parce qu'en gros, mais je lui ai dit, j'étais perturbée par le fait que c'est un diagnostic purement clinique, et que, en gros, ça ressemble à des questionnaires, et il y a des tas de questions, ou des discussions, ou en gros... la réponse à chaque fois, c'est sa propre vie. Mais comme en fait c'est basé sur de l'auto-évaluation parce que je donne mes propres réponses, j'avais un peu trop peur d'être influencé, d'influencer mes réponses sans le savoir.
D'accord.
Et que du coup le diagnostic soit faussé. Et ensuite elle m'a dit bon bah je fais ça depuis 15 ans et je vois quand les gens me mentent. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Mais j'ai quand même mis du temps à accepter que c'était. Que ça pouvait marcher en n'ayant pas d'évaluation objective avec des chiffres, quoi.
Ouais.
Et donc ça, c'est pour ça que je trouve que c'est aussi important d'avoir un regard extérieur, parce que j'aurais pu tenter un autodiagnostic et décider de l'identifier comme ça, mais je pense pas avoir la légitimité pour faire ça, et je pense pas que ça fonctionne. C'est bien pour se poser des questions, par contre. Mais aussi, encore une fois, ça coûte de l'argent. D'aller voir un psychiatre et parce que la plupart sont en secteur 2 et du coup il a fallu quand même attendre que j'ai le budget pour faire ça et c'est pas donné à tout le monde et aussi du coup c'est ça qui a fait que comme j'avais vraiment un besoin, enfin j'ai ressenti un besoin un peu pressant j'ai lancé la démarche parce que là de toute façon j'avais pas de raison de pas le faire puisque j'avais les moyens et que c'était visiblement nécessaire.
Et maintenant tu te sens assez... Enfin, tu as accepté ce diagnostic ou tu es encore un peu dans le doute en te disant peut-être
Si, ça va. Non, mais je l'ai accepté, ça a pris un peu de temps. Ensuite, je sais toujours pas trop quoi en faire. Disons que j'ai fini par accepter au sens où je me suis dit qu'elle avait sans doute raison parce que c'est son métier. Mm-hmm. Ça a pris du temps. Et ensuite, je l'ai accepté. Ensuite, je sais pas trop quoi en faire au sens où... je me sens qu'à moitié concernée, Il y a des moments où je me dis, ah oui, c'est vrai, ça me concerne, donc en fait, je pourrais dire des choses dessus. Mais en même temps, c'est un peu... je sais pas, c'est un peu bizarre, c'est un peu comme... disons que si on me pose des questions, à part là, parce que c'est complètement volontaire, mais c'est un peu aussi pour ça que j'ai accepté, si on me pose des questions dessus, en gros, c'est un peu comme si on parlait de toi avec ton prénom, mais que tu réalisais pas que c'était ton propre prénom. Enfin, c'est comme si quelqu'un t'appelait avec un prénom qui n'est pas le tien, et que tu dis « Ah oui, mince, on s'adresse à moi, c'est vrai. » Voilà, c'est à peu près ça.
Ouais, bah c'est super drôle, parce que du coup, les autres personnes avec qui j'ai pu discuter, ce côté prendre conscience que ça fait vraiment partie de ta personne et de l'accepter, ça me met... Enfin, j'ai l'impression que j'ai pas rencontré une seule personne qui me dit « ça c'est tombé sous le sens, je l'ai accepté immédiatement. »
Oui, c'est ça. Bah en fait, c'était pas surprenant. Franchement, je suis vraiment pas tombée des nues. Je me suis dit « Ah tiens donc, ça explique toutes les choses bizarres. » Et ça explique plein de trucs. Mais de toute façon, encore une fois, je pense qu'à l'ENS, c'est... Enfin, quand tu te retrouves dans des parcours type enseignement recherche, c'est quand même qu'il y a une forme d'obsession sur une matière ou une autre, quoi, dans ouais. beaucoup de cas. Donc, c'est pas si surprenant. Et en plus, sachant que je m'étais un peu posé la question, mais sans aller plus loin, j'étais pas tombée des nues. Disons que j'ai jamais, et je pense que ça sera jamais le cas, j'ai pas à cœur d'en faire un élément de ma personnalité.
Okay.
Je pense que ça fait partie du truc. Mais c'est pas, ça serait, je trouve que ça serait bizarre que je me présente en premier lieu comme ça, parce que je pense pas que ça soit l'essentiel de ce qui fait ma personne.
Mmh.
Ça a de l'utilité pour légitimer certains besoins,
ouais.
du genre, bah, par exemple, s'il y a besoin de s'isoler ou de faire des trucs précis ou, je sais pas, des trucs répétitifs. Hein. Quand il y a besoin de faire des trucs où je me dis que ça peut avoir l'air inapproprié, ça me permet de légitimer le fait de le faire, déjà, et aussi de donner un facteur explicatif que les gens contestent globalement pas.
Mmh.
Ensuite, par contre, j'ai pas envie d'en faire un élément de présentation de base. Je le dis quand c'est pertinent. Mais ensuite, d'un autre côté, je pense que y a plein d'autres choses plus intéressantes qui sont... Enfin, qui, dans leur approche, dans l'approche que j'en ai faite, sont liées à ça. Mais sont plus intéressantes en tant que telles, quoi. Enfin, par exemple, j'aime beaucoup l'histoire, on pourrait dire c'est un intérêt spécifique, mais du coup je vais pas commencer par ça, je vais plutôt commencer par j'aime bien l'histoire, et parler que de ça, et par contre ramener ça comme information quand ça devient utile et que je dois expliquer des trucs sur ah oui, là j'ai du mal avec le second degré, tout ça.
Ça me fait très plaisir que tu parles du fait que ben à l'ENS c'est quand même on s'y retrouve parce qu'on a eu la plupart du temps une petite obsession sur une matière ou sur un sujet entre guillemets, parce que tout l'objectif du podcast il a été motivé par l'année dernière pendant les jours d'interface on avait un prof qui a fait une conférence et qui a fait des blagues sur l'autisme et qui a conclu en disant de toute façon ça ne vous concerne pas, il y en a aucun dans la salle quoi.
Ah ok, je savais pas. Ok, j'étais pas du tout
genre. On se regardait un peu avec des potes en mode « Ok, bon, bizarre. »
Ben, c'est un truc avec lequel le service médical non plus est pas d'accord. Enfin, j'en ai parlé avec... Ben, vous avez aussi rencontré Caroline Combe. Mm. Ben voilà, ben, on en avait parlé. Et globalement, tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il y a probablement une surproportion. Enfin, ça me paraît assez logique. Je pense que ça servirait à... Ça serait un peu abusé de dire que ça concerne tout le monde.
Oui.
Je pense que par contre, c'est pas risqué de dire qu'il y a une surproportion dans ce genre d'établissement.
Oui. Et du coup, le fait que tu aies été diagnostiqué, est-ce que ça a été utile ? Est-ce que ça a déclenché des aménagements, par exemple, à l'ENS ou...
Alors, je sais que je peux en avoir, mais en fait, j'y ai réfléchi. Je sais que j'ai le droit à plein de trucs. Enfin, je connais vraiment pas mal mes droits. Ben, il y a plusieurs droits, il y en a de façon générale, comme bah, du coup, pour avoir la LD ou la RQTH, etc.
Mm-hmm.
Petit point information. Le sigle ALD signifie affection de longue durée. Ce dispositif permet la prise en charge de pathologies qui nécessitent un traitement prolongé. Ce peut être le cas dans certaines formes d'autisme. De plus, un autre sigle a été employé, la RQTH. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est attribuée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, aux personnes handicapées. Elle peut nous donner accès à des mesures favorisant l'insertion professionnelle ou le maintien dans l'emploi.
qui ensuite peuvent avoir des applications dans l'ENS avec le PAEH, notamment. Mais bon, j'ai pas demandé la RQTH parce que j'en ai pas l'utilité là. Et la LD, j'y ai réfléchi, mais ensuite on m'a dit attention, pour des prêts ça peut être compliqué, donc j'y réfléchis encore, mais j'ai le papier. Et ensuite dans l'ENS, je sais à quoi ressemblent les PAEH, et c'est très bien parce qu'ils peuvent prendre des formes hyper variées.
Un nouveau sigle vient d'être employé et je vais l'expliquer. Le PAEH, le plan d'accompagnement de l'étudiant en situation de handicap, est un dispositif qui permet aux étudiants en situation de handicap de bénéficier des aménagements nécessaires en fonction de ses besoins pour suivre ses études supérieures. Dans le cadre de l'École normale supérieure de Lyon, il faut contacter la mission handicap, et plus particulièrement Thibaut Chambriard, qui est au service des étudiants et étudiantes handicapées de l'École normale supérieure de Lyon et qui bénéficierait de ce genre de plan.
En gros, c'est certes un formulaire, mais en fait, tu peux vraiment l'adapter et c'est au cas par cas. Si tu veux pas, par exemple, faire de présentation orale, c'est tout à fait possible, y compris dans des cas, enfin, il y a des cas d'aménagement. C'est pas parce que t'as un oral de présentation, de soutenance de mémoire ou de rapport de stage que c'est pas adaptable, quoi. Tout est adaptable. Et ensuite, j'ai regardé les PAEH et j'ai réfléchi, je me suis demandé si j'en avais l'utilité. Et je pense pas en avoir l'utilité parce que, bah en gros, comme j'ai des problèmes de concentration, je sais que pour la grègue, si j'avais demandé un tiers-temps, je l'aurais sans doute eu. Mais en fait, dans mon cas précis, je pense pas qu'un tiers-temps soit utile, parce que mon objectif, c'est de sortir le plus vite de la salle, et mes épreuves durent 7 heures.
Donc, oui, ça commence à rallonger.
Donc voilà, c'est ça, si je rajoute le tiers-temps, certes, je peux faire une sieste au milieu, mais je pense pas que ça me rende plus efficace, ni que ça me fasse vivre une meilleure épreuve, je pense même que ça serait bien pire. Du coup, bah, j'en ai pas demandé.
Après, pour les candidats aussi autour, s'ils voient un des candidats faire une sieste au milieu.
Normalement, normalement, les tiers-temps, c'est une salle à, enfin, les aménagements, c'est une salle à part, ouais. Mais, enfin, c'est une salle à part pour, en gros, aussi les gens qui composent sur ordi, les gens qui composent en plus longtemps, tout ça. Mais, j'ai globalement pas de, je pense pas avoir de difficultés qui nécessitent ce genre d'aménagement. Ensuite, je sais que, bah, si j'en reçois le besoin un jour, je pourrais faire appel à ça, mais normalement, ça va pour l'instant.
Ok. Et s'il y avait des aménagements qui n'ont pas encore été mis en place, tu dirais que ce serait quoi ?
En fait, je sais pas trop, parce que globalement, les PAEH, ils sont assez flexibles. Ouais. Je dirais que tout est mettable en place, parce que ça passe par... Enfin, c'est pas juste un formulaire, le PAEH. Il faut rencontrer Thibaut Chambriard, il faut en discuter, prévoir les modalités, voir avec l'équipe pédagogique, donc... Techniquement, on peut tout mettre en place. Juste, enfin, je pense que ça gagnerait à être vraiment commun. Et aussi que la discussion avec l'équipe pédagogique soit facilitée, parce que j'imagine que ça dépend beaucoup des départements et des formations, mais je pense que en gros, la tolérance vis-à-vis de ce qui est proposé par le PAEH, ça doit varier, parce qu'ils peuvent le retoquer et tu dis si t'es d'accord ou non, tout ça. Je pense que s'il y a des choses qui n'existent pas, mais ça c'est général, ça concerne pas du tout, c'est pas quelque chose que je souhaiterais pour moi-même, mais qui pourrait être utile pour tous les gens qui ont des difficultés mentales ou physiques, juste la possibilité de faire une année en 2 ans, ça fait partie des RSE, enfin des régimes spéciaux d'études, et actuellement le RSE de l'ENS il est très minimal, il y avait un projet, mais là on l'a passé à l'équipe d'élus suivant, de le développer, de l'ouvrir beaucoup, et en fait, en l'état, dans n'importe quelle université en France, tu peux demander à faire une année en 2 ans, donc ton M1 en 2 ans au lieu de 1, pour alléger ta charge, avoir le temps de faire des choses, etc. Mais en l'état, l'ENS, tu peux pas le faire, parce que dans le diplôme, il y a l'obligation de valider 60 crédits par année. Donc, c'est pas possible pour l'instant. Et je pense que ça, c'est un vrai manque, parce que y a des gens qui ont besoin d'autant de temps, c'est pas l'idée d'être juste plus tranquille, c'est aussi qu'il y a des gens qui ont besoin de ce temps-là, pour pas se presser.
Et pour que la qualité de leur travail soit pas impactée aussi.
Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis aussi, même, ça peut être intéressant pour des formations comme la Greg ou autre, où j'imagine que c'est moins possible en LSH parce que les programmes changent, pour moitié. Mais par exemple, en physique ou en maths, le programme, il est sensiblement le même tous les ans, donc c'est faisable de la préparer en 2 ans. Et il y a des gens qui juste profiteraient de ce rythme, parce qu'un rythme de concours, c'est éprouvant pour beaucoup de gens.
Oui.
Ça pèse sur la santé mentale, et si la santé mentale est déjà un peu fragile, ou que t'as pas envie de t'infliger ça, ça peut être valable aussi comme aménagement.
Complètement. Et du coup, je me demande, est-ce que tu en as parlé à ton cercle proche à l'ENS.
L'UTSA ?
Ouais.
Un petit peu, à mes amis proches, au tout début. Mon copain le sait. Je pense pas que ça soit... Enfin, on en parle vraiment jamais, mais c'est aussi parce que je ressens pas le besoin. Je l'ai dit quand c'était utile, et on a dit ok, du coup, bah, il comprend très bien certains trucs, il fait attention, voilà. Non, je l'ai dit un peu aux gens qui étaient proches de moi à l'ENS. Ensuite, je l'ai pas dit plus. Je le dis pas non plus, pareil, aux nouvelles personnes que je rencontre avant que ça devienne pertinent. Et parfois, ça le devient pas, et bah, c'est ok. Et voilà, ça s'arrête à peu près à ça.
C'est pas un sujet en soi.
Non, disons que j'ai pas envie d'en faire un sujet, parce que je pense que c'est bien d'en parler, et c'est bien de faciliter la discussion, l'accueil, pour que les gens se sentent pas seuls et qu'ils aient des interlocuteurs. Ensuite, j'ai pas envie d'en faire un, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas envie d'en faire un élément de ma présentation, et j'ai pas envie de m'engager pour. Genre, en gros, je soutiendrai toujours les actions qui facilitent l'intégration, etc. Mais sur le temps dont je dispose, qui est limité, je préfère mettre en avant d'autres choses. En termes de recherche, loisirs, etc., mais aussi en termes de militantisme, j'ai un peu plus tendance à aller chercher des choses côté syndical ou vraiment politique, mais là, plutôt, de ce côté-là, pour, en gros, je chercherais plus l'amélioration des conditions de la santé au travail en général que spécifiquement pour le TSA, et du coup, je trouve pas utile d'en faire un élément de ma présentation et de ma personnalité. Je pense que ça fait partie, c'est pertinent régulièrement et ça explique des trucs, mais quand j'ai pas besoin de donner des explications sur des trucs, j'ai pas particulièrement... Enfin, en gros, quand c'est pas pertinent pour moi, j'ai pas envie d'en parler par réflexe.
Je comprends tout à fait. Et du coup, ce que tu disais par rapport au fait de s'engager plus pour la santé au travail en général, est-ce que tu considères que être sur le spectre de l'autisme, c'est un handicap ou non ?
Ben, je pense que ça peut l'être, ça dépend des manifestations. C'est pareil, en fait, je le perçois plutôt comme vraiment un élément explicatif de certains trucs. Ça peut être un handicap dans certains cas, et aussi c'est dur de savoir ce qui relève du TSA dans mon expérience personnelle ou juste de ma façon de fonctionner, parce que pour moi c'est un peu indissociable, je peux pas savoir ce qui relève de la normalité par rapport à la norme des humains sur Terre, et de ce qui relève du TSA ou de la neuroatypie. Et du coup, par exemple, j'ai vraiment une très bonne mémoire, j'ai aucune idée de d'où ça vient, et je peux pas trop faire la généalogie du truc, parce que je pourrais dire c'est une ressource et un avantage du TSA, mais en fait je sais pas si c'est lié au TSA.
Ou si je suis une partie.
Oui, c'est ça. C'est ça, je sais que ça concerne pas forcément tout le monde, donc ça servirait pas à grand chose. Et c'est pareil, quand bien même, du coup, j'en ai aucune idée, j'aurais un QI exceptionnel, je pense pas que ça soit forcément lié, ça représente personne à part moi, c'est pas forcément un indicateur pertinent. Donc voilà, disons que je trouve que les ressources, ça dépend principalement des gens. Ensuite, du coup, c'est pareil, je pense que oui, c'est une forme de handicap quand ça pénalise dans des activités et que c'est un espace qui est pas adapté à ça. Moi, j'ai besoin de tranquillité, mais je peux trouver la tranquillité quand il faut. Disons que en gros, j'aime beaucoup le foyer, mais c'est très bruyant. Des fois, je pars. Et je reviens, et il y a d'autres espaces dans l'école qui sont calmes, et j'arrive à m'y retrouver. Ensuite, par exemple, si j'avais beaucoup plus de problèmes permanents avec le bruit, je pense que ça serait plus compliqué, parce que c'est quand même nécessaire d'être dans des espaces un peu bruyants par moment, et ça peut constituer vraiment une forme de handicap. Et c'est pareil pour plein de choses. Moi, j'ai du mal à comprendre certaines interactions sociales, et des fois j'ai besoin d'être tranquille. Et j'ai besoin de régularité surtout, mais y a des gens qui ont beaucoup plus de mal à parler avec des gens, juste à avoir l'interaction sociale, et juste c'est pas très facile. Si on n'arrive pas à parler aux gens en face à face, forcément ça complique les examens oraux, ça complique plein de choses, et du coup c'est aussi une forme de handicap s'il n'y a pas des possibilités d'adaptation, et que en plus pour accéder à des possibilités d'adaptation, c'est un peu un parcours du combattant où c'est pas facile. Je sais pas si c'est le cas ou pas, mais si c'est le cas, dans tous les cas, c'est un double handicap, quoi.
Complètement. Là, tu parlais du bruit, là, je me permets juste de le dire que du coup, avec Présence, on va essayer d'acheter des casques anti-bruit pour les mettre à disposition des personnes qui pourraient en avoir besoin et qui n'ont pas forcément le budget parce que ça coûte quand même assez cher. Et du coup, je me demandais par rapport à toutes ces difficultés qu'on peut rencontrer, est-ce que tu as trouvé des astuces un peu personnelles que tu pourrais partager peut-être pour des auditeurs qui seraient sur le spectre et qui galèrent un peu dans certaines situations?
Bah, le bruit, en fait, je m'en vais juste et je mets bruit blanc et quand c'est trop, je mets bruit blanc apaisant dans mon casque. Là, enfin, j'ai bruit blanc ou bruit brun, voilà, sur Deezer et ensuite je le mets en boucle. Ensuite, c'est mon top écoute du mois, mais c'est pas très, c'est parce que c'est une boucle de une minute en fait, voilà. Ça, ça permet de recentrer un peu parce que ça enlève tous les bruits extérieurs. Alors, parce que sinon, sans ça, c'était compliqué de trouver un endroit avec zéro bruit, mais là, ça annule un peu tout. Alors, il y a du bruit, mais il est constant et il y a que moi dedans, donc j'ai plus l'impression d'être dans une bulle, donc c'est plus efficace. Ça, je le fais quand c'est vraiment un peu angoissant. Mmh. Voilà. Donc souvent, partir, c'est une bonne solution pour revenir après, parce que, bah, ça, voilà. Je dirais que la meilleure astuce, c'est quand même, en termes d'interaction sociale, de demander les choses et de les dire avec aucune ambiguïté. Globalement, essayer de comprendre les sous-textes quand ça marche pas, bah ça donne surtout lieu à des quiproquos.
Ouais.
Et je trouve que c'est s'épargner beaucoup de doutes et de problèmes que de juste demander quand on n'a pas compris. Donc, pas comprendre une blague, c'est ok de demander. Au pire, bah, c'est un peu drôle tant que les gens se moquent pas. Et en fait, s'il y a des doutes sur ah bah tiens, je sais pas si là je devrais mal prendre ce truc ou pas, juste demander, pas obligé de prendre des pincettes ou de s'excuser beaucoup de fois, mais juste dire là j'ai pas compris, est-ce que tu étais agressif ou pas, ou est-ce que c'était une blague ou des choses comme ça, ben normalement les gens ont pas trop de problèmes à répondre. Genre j'ai pas besoin qu'ils le disent à chaque fois, mais par contre le fait de plus hésiter à le demander, ça permet d'être mieux intégré aux conversations. Et de pas vivre avec le doute, quoi. Mmh. Et c'est pareil pour plein de choses, en fait. Enfin, j'applique ça dans un peu tous les cas. Ce qui fait que, du coup, bah, pour des conseils de situation sociale, du genre amitié ou amour, quand les gens viennent me voir, ma réponse, ça va juste être « Ah bah, dis le truc, en fait, c'est plus simple. » Enfin...
Okay, ouais, y a les caches.
Si, bah, disons qu'en gros, quand les gens viennent me voir et me disent « Ben, ah, je suis trop saoulé parce que machin me fait la gueule, voilà. » ou je sais pas si elle me fait la gueule ou des trucs comme ça, ben je vais dire bah tu lui envoies un message, tu lui dis explicitement je sais pas si tu me fais la gueule ou pas, si oui pourquoi, et enfin mm-hmm. C'est souvent plus simple en fait.
Je comprends tout à fait, et du coup tu as en partie répondu déjà à cette question, mais est-ce que ça t'arrive quand même malgré tout des fois de faire du masking? Je sais pas si tu vois un peu le concept.
Si ou... ben j'imagine que oui.
Okay.
Mais en fait, c'est un peu dur parce que j'ai pas eu de diagnostic quand j'étais enfant, donc j'ai aucune idée de ce que j'ai acquis et de ce que j'ai pas acquis.
Mm-hmm.
Enfin, quand je connais vraiment pas très bien les gens, ouais, ça m'arrive. Enfin, disons qu'il y a des trucs que je fais maintenant, ou je demande explicitement, etc., que je ferais moins si je rencontrais des gens pour la première fois et que je savais pas trop comment ils se comportaient, ou leur background, ou quoi. À l'ENS, je le fais pas trop, parce que de manière générale, les gens que j'ai rencontrés sont plutôt bienveillants, donc il y a pas trop de soucis. Et ensuite, en fait, je sais pas trop, parce que je sais pas ce qui relève de du naturel ou pas. C'est un peu trop brouillé avec le temps, en fait, donc j'en ai aucune idée.
Okay. Donc ça te fait pas souffrir des moments où tu fais du masking, t'arrives quand même à te dire, bah, je suis pas à l'aise dans cette situation.
Ben, disons.
J'arrête de faire semblant.
Oui, disons que. Bah, en fait, ma solution, c'est souvent de partir juste.
Okay.
Pas forcément sans rien dire, des fois, juste, bah, si je me sens un peu ailleurs, je pars, quoi. Enfin, je dis, ah oui, c'était super, je vais prendre congé, je sais pas.
Okay.
Enfin, bah, ça, j'ai un peu l'impression que, après avoir eu l'épisode de déprime où juste je ne pouvais plus rien masquer du tout,
ouais.
En fait, j'ai l'impression que j'ai surtout démasqué des trucs. Enfin, j'ai vraiment plus trop de problèmes à juste faire à l'instinct de aller au plus direct tout le temps et faire ce qui est le plus efficace pour moi tout le temps, alors que avant j'y réfléchissais pas trop en fait.
Ok. Et du coup, je me demande dans ta vie, est-ce que ça t'arrive des fois d'être 100% naturel avec quelqu'un, ou au contraire il faut que tu sois seule pour pouvoir?
Non, avec mon copain il y a pas de problème. Et de manière générale, avec mes amis proches ici, je pense pas qu'il y ait trop de soucis non plus, voilà. Mais je sais que, en tout cas, les situations où je réfléchis vraiment pas, c'est quand je suis toute seule et quand je suis avec mon copain, principalement.
Et enfin, je me demandais peut-être, quand tu parlais du fait que t'adorais l'histoire au début, est-ce que c'est un moment où tu te sens vraiment dans ton élément?
Ben, j'aime bien. Ben, je lis beaucoup de trucs. Quand j'étais au lycée, je faisais beaucoup de tunnels de pages Wikipédia, mais là, je fais ça pour réviser, donc ça compte pas trop. Ben, j'aime bien apprendre des trucs. Donc, de manière générale, moi, je me sens bien quand j'apprends des trucs. Et ensuite, je dirais que c'est particulier, comme c'est assez vaste, l'histoire, et que c'est aussi un travail, là, enfin, dans tous les cas. Ensuite, quand il y a des trucs qui m'intéressent, c'est plutôt que ça fait une sorte de tunnel, parce que, du coup, je suis dedans tout le temps. Et j'ai tout le temps envie de m'y remettre. Enfin, j'ai aussi envie de faire des choses, mais du coup, je prends du plaisir à ce que je fais, et c'est agréable. C'est plutôt ça. Ensuite, j'ai d'autres choses qui m'apportent du confort, hein, mais oui, je dirais que c'est plutôt agréable. Ensuite, c'est comme tout, il y a des côtés pas agréables, il y a des choses académiques avec de l'histoire dedans, qui sont mieux que des choses académiques sans histoire, mais que j'aime quand même pas faire, comme des dissertations. Et ouais, il y a du mieux et du moins bien partout. Il y a des, c'est pareil. J'aime bien en général. Il y a des périodes que je préfère à d'autres, etc. Il y a d'autres trucs qui m'intéressent. Moi, il y a des trucs que j'aime bien apprendre en général. Je pense que de manière générale, j'aime bien apprendre des trucs.
Et d'un point de vue plus personnel, là, s'il y avait une chose que tu pouvais faire dans ta vie sans restriction, ce serait quoi? Ce serait l'histoire, peut-être.
Bah là, c'est un peu parti pour être mon métier quand même, donc oui, je pense.
Mais ou une époque, enfin un truc précis où jamais, enfin t'as l'impression que tu pourrais jamais t'en lasser, quoi.
Bah ça c'est un peu dur à dire, j'ai un peu du mal à, je pense que je peux pas répondre avec quelque chose parce que en fait on peut toujours se, enfin je pense que c'est un peu compliqué de savoir sur le long terme se lasser ou pas. J'avais très peur de pas aimer mon sujet de M1 et bah là je l'aime bien suffisamment pour en faire un M2 et une thèse en général. Ensuite je dirais pas que il y a aucune, enfin il y a pas de garantie que je m'en lasse pas puisque c'est pas, enfin ce que ce sur quoi j'ai choisi de travailler au final c'était pas non plus mon immense passion quand j'avais 5 ans, parce que je lis des trucs d'histoire depuis très longtemps, mais j'ai pas lu spécifiquement sur les îles en Méditerranée quand j'avais 5 ans, quoi. Donc, je sais pas. Ça peut tenir longtemps, mais toute ma vie, je sais pas.
Je te posais cette question par rapport à l'image qu'on se fait souvent des intérêts spécifiques pour les personnes sur le spectre, et de se dire, souvent on a cette image de... la personne ne se lasse jamais, passe tout son temps à faire, et en fait...
Non, je passe pas tout mon temps, enfin, il y a d'autres trucs dans la vie aussi, j'aime bien ça, mais... Enfin, j'aime beaucoup l'histoire, ça reste une forme de loisir aussi, parce que je lis des trucs, voilà. C'est aussi une forme de travail, donc quand je bosse mon mémoire, je bosse pas mon mémoire toute la journée, sauf quand il n'y a pas le choix. Mais non, je m'en lasserai de temps en temps, je pense que j'aimerais toujours bien l'histoire, ça c'est sûr. Ensuite, les formes que ça prend, c'est hyper varié. Aimer l'histoire, ça peut être mon métier, ça peut être lire des articles de vulgarisation, ça peut être lire des pages Wikipédia, lire des livres spécialisés. Pour moi, toutes ces formes, elles sont valables. Et ensuite, il y a d'autres choses que j'aime bien, de toute façon. J'aime bien les volcans. J'aime bien la science, en général. Ouais, j'aime bien les langues aussi, mais ça, c'est plutôt parce que ça... Enfin, j'apprends des langues parce que c'est très pratique pour ma recherche, mais ensuite, ça me déplaît pas du tout d'en apprendre non plus.
Et du coup, oui, c'est vrai que ça, au moins, ça montre bien que l'image qu'on se fait des intérêts spécifiques, en fait, c'est une grande diversité.
Oui, moi, j'aime bien plein de trucs, hein. Enfin, vraiment, le seul dénominateur commun, c'est que j'aime bien apprendre des choses, que ça soit des informations ou des compétences, quoi. Enfin, je veux dire, j'aime bien l'informatique, parce que je fais des trucs sur mon ordi, et j'aime bien faire de la musique aussi. Enfin, moi, j'aime bien tout, en général.
Ok. Parce que du coup... par rapport, d'un point de vue, j'allais dire, médical, avant on appelait ça du coup des intérêts restreints, maintenant on fait plus attention pour dire des intérêts spécifiques, est-ce que tu trouves que c'est plus pertinent ou c'est encore trop pathologisant de dire intérêts spécifiques?
Non, je trouve que ça va, mais ça dépend de ce qu'on met derrière. Restreint, je trouve que c'est pas très malin parce que, enfin oui, il y a des gens pour qui c'est restreint parce que ils s'intéressent que à ça, mais c'est vraiment pas la majorité des cas, il y a juste des trucs... qu'on aime bien, et moi c'est des trucs dont j'aime bien parler aux gens aussi, mais je dirais pas que c'est... Enfin, c'est spécifique, parce que peut-être que d'autres gens qui font pas la même chose ont pas autant d'intérêt pour ça. Ensuite, je pense que tout le monde... Enfin, la plupart des gens ont des trucs, des petits tropismes par période. La question, c'est l'intensité et la tenue dans la durée. je pense. Mais pour moi, ça peut évoluer en termes de forme, de temps consacré, et surtout spécifique, ça veut pas dire que c'est tout seul. Donc il y a plein d'autres choses.
Donc il peut y avoir une forme de diversité dans les intérêts spécifiques.
Ouais, bah déjà, il n'y en a pas forcément un seul. Ensuite, il peut y en avoir plusieurs, et ça veut pas dire qu'il y a d'autres intérêts moins spécifiques.
Ok. Et bon, dernière question, elle est un peu vaste, donc si jamais ça te pose problème, n'hésite pas à me le dire. Pour toi, c'est quoi être autiste ?
Je sais pas trop. C'est un peu un mode de fonctionnement qui a un impact dans certains domaines. Pour moi, c'est surtout les interactions sociales. Ça peut être un facteur explicatif. C'est pas une part de mon identité. C'est sans doute la part de l'identité. Enfin, c'est sans doute une part vraiment plus importante de l'identité de d'autres gens concernés. Parce que je pense que c'est assez variable et c'est surtout quelque chose qu'on s'approprie. Moi, j'ai pas décidé d'en faire un élément majeur de présentation, parce que pour moi, c'est un peu une toile de fond qui est pertinente que parfois. Mais je pense que c'est quelque chose à s'approprier et il y a des gens qui se l'approprient pour faire de l'information ou de la mise en avant ou du militantisme autour, et c'est très bien aussi. Je pense que ça s'approprie principalement.
Ok, ça te dérange pas quand même malgré tout le côté engagement politique de certaines personnes sur le spectre qui veulent faire valoir cette spécificité comme un pan entier de leur personnalité?
Non, ça me dérange pas. Ce que j'aime pas, c'est quand ça sert à expliquer des choses où ça suffit pas. J'ai déjà vu des gens dire des trucs vraiment très méchants et où je pense que c'était pas explicable par juste « j'ai pas compris ».
Ouais.
Et en gros, ça me va pas quand c'est... Enfin, il y a deux situations où ça me va pas. Quand c'est instrumentalisé pour justifier juste des actions nocives, ça arrive pas beaucoup. Mais en gros, moi, l'idée de que ça puisse justifier le fait d'être un connard, quoi. Ça arrive de faire des maladresses et de blesser sans le vouloir, mais je pense que ça doit pas tout expliquer non plus. Et ensuite, j'aime pas trop quand ça sert à disqualifier d'autres gens, particulièrement dans les formes du TSA, du genre, faut pas que ça mène à une compétition du « oui, mais toi, tu l'es pas vraiment parce que tu as pas tel type de caractéristique ou telle intensité », ben je trouve que ça aide pas les gens à mieux le vivre, donc ça me pose problème aussi. Mais pour moi, c'est pas impératif. Enfin, disons que ça, c'est pas quelque chose qui vient nécessairement avec le fait d'en faire un élément de militantisme. On peut en faire un élément de militantisme sans disqualifier d'autres personnes.
Ouais, pour que ce soit inclusif, en fait, c'est l'objectif.
Oui, c'est ça. Ça me paraît contre-productif, sinon. Moi, c'est comme j'ai dit, moi, j'ai pas décidé de faire ça, et j'ai décidé que c'était pas si important de façon générale. Mais par contre, je trouve pas du tout illégitime les gens qui choisissent d'en faire un élément de présentation de base et de militer pour.
Ok.
Voilà.
Et ben merci beaucoup.
Pas de soucis.
Je remercie chaleureusement notre participante au podcast et vous laisse vous complaire dans l'ambiance sonore qui lui plaît, le bruit blanc surpassant toutes les autres formes de bruit dérangeant.